Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une affaire criminelle de 1995, l'affaire Victorska. Un assassinat absolument unique, puisqu'il a été commis en s'inspirant d'un épisode de Columbo. Si, si. Mais comme dans Columbo, le stratagème a été déjoué. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous voilà le 14 juillet 1995, un dimanche, dans la région de Sarcelles, au nord de Paris. Nadège Witkorska est chez une amie, et normalement son mari Jean-Bernard doit la rejoindre. Ils ont prévu d'aller voir le feu d'artifice ce soir. Mais pas de Jean-Bernard. Oh, mais je comprends pas. On a déjeuné ensemble. Il est rentré se reposer un peu à la maison. Il devrait être là. Elle appelle le fixe de leur appartement de Sarcelles. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Pas de réponse. Oh, mais là, je comprends pas. Hein. Ça commence à devenir inquiétant, non? Faut qu'on aille voir à la maison ce qui se passe. C'est pas normal qu'ils répondent pas. Les deux femmes arrivent en bas de l'immeuble de Sarcelles. Ça a l'air éteint. Je vois pas de lumière. On monte. Elles montent. Elles entrent. JB? JB, t'es là? Pas la moindre réponse. Elles font le tour de l'appartement et c'est la copine qui pousse la porte de la chambre.
Ah! Mon Dieu!
Jean-Bernard gît inanimé sur son banc de musculation, une grosse haltère en travers de la gorge. La copine s'approche, elle lui prend le pouls. Il est mort. Et Nadège, sa femme, se met à pousser des hurlements. Elle est dans des tas de choc, impossible de la calmer. C'est la copine qui appelle les pompiers, qui sont là 9 minutes plus tard. Et ce sont eux qui enlèvent l'haltère qui repose sur sa gorge. Il confirme que c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Et un médecin vient constater le décès.
C'est un arrêt cardiaque, je pense. Il a dû faire un infarctus en faisant sa musculation. Du coup, il devait être en poussée, il a lâché son haltère. Elle est venue s'écraser sur sa gorge.
Et donc sur le certificat de décès, il écrit « mort accidentelle ». C'est un accident idiot. La faute a pas de chance. Nadège et Jean-Bernard ont 2 enfants en bas âge, Romain et Benjamin, qui sont en vacances chez des amis. Nadège doit maintenant leur annoncer la nouvelle. Leur papa est mort.
Allô? Oh mon petit chéri. J'ai une bien triste...
Et on organise les funérailles. Normalement, mon histoire s'arrête là. Mais en principe, les accidents, n'est-ce pas? C'est pas mon truc. Trois jours plus tard, le téléphone retentit au 36 quai des Orfèvres à Paris, siège de la police judiciaire. L'inspecteur de permanence décroche, à l'autre bout du fil, une femme.
Allô ? Bonjour, inspecteur. J'ai des révélations à vous faire sur la mort d'un homme.
Oui, d'accord. Vous pourriez peut-être me donner votre nom?
Non, je peux pas. Je veux rester anonyme.
Bon. Entendu, de quoi s'agit-il, madame?
C'est à Sarcelles. Un homme est mort il y a 3 jours.
Un homme? Vous avez son nom?
Jean-Bernard Witkorska. On a cru que c'était un accident cardiaque, mais c'est un assassinat, inspecteur. C'est sa femme qui l'a tué avec son amant. Et traînez pas, ils vont incinérer le corps.
Ah, un assassinat. Là, c'est mon rayon. Ça serait donc sa femme, avec son amant. Le 36 quai des Orfèvres fait passer l'info à la police judiciaire de Versailles, qui commence par appeler le commissariat de Sarcelles pour savoir si un certain Jean-Bernard Witkorska est bien mort le 14 juillet.
Vitkorska, vous dites? Voyons, voyons. Oui? Oui, je confirme, un décès par infarctus.
Ils appellent ensuite les pompes funèbres.
Ah, écoutez, la crémation doit avoir lieu aujourd'hui.
Aujourd'hui? Faut pas traîner. Et donc les flics de Versailles foncent au crématorium de Gonesse, et quand ils arrivent, les employés des pompes funèbres sont en train de terminer la mise en bière.
Stop! Stop, on arrête tout. Hein? On a un mandat de justice, nous voulons récupérer le corps pour une autopsie.
Ils prennent un risque, hein. La femme au téléphone a peut-être raconté n'importe quoi. N'empêche que les obsèques sont reportées. Alors il y a toujours un peu d'embouteillage, hein, pour les autopsies en région parisienne. Et donc en attendant les résultats, les policiers se rencardent sur l'entourage de ce Jean-Bernard Vitkorska. Et le 20 juillet, ils prennent sa femme Nadège en filature jusqu'au 18e arrondissement de Paris. Elle se gare, elle entre dans un immeuble, ils se mettent en planque, et ils n'attendent pas longtemps, hein. Quelques minutes plus tard, ils voient sortir un homme de l'immeuble qui s'installe au volant de la voiture de Madame Vitkorska. Ils démarrent, ils le suivent. L'homme a l'air sur ses gardes, il jette des coups d'œil inquiets à son rétroviseur. C'est trop risqué, il décide de le laisser filer. Et il retourne planqué devant l'immeuble. Une heure plus tard, il voit l'homme revenir, il se gare, il entre dans l'immeuble. Et là, il passe à l'action. Ils entrent à leur tour dans l'immeuble, ils trouvent l'appartement et ils sonnent. Ils ont en face d'eux l'homme, la femme et une autre jeune femme.
Bonjour, messieurs, dames. Police nationale, est-ce que vous pourriez nous présenter vos papiers d'identité, s'il vous plaît?
Et là, l'homme leur tend une carte d'identité au nom de Jean-Bernard Vitkorska.
C'est votre nom?
Oui, je suis le mari de madame.
Et le pire, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à la photo de la carte d'identité.
Ok, on vous embarque tous les trois. Daté de cet instant, vous êtes tous les trois placés en garde à vue.
Et voilà donc les trois zozos, chacun dans un bureau à la PJ de Versailles. La jeune fille qui était avec eux s'appelle Elisabeth Tourteau, c'est la locataire de l'appartement, et elle est relâchée assez rapidement. Passons à Nadège Vitkorska.
Alors madame, est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps du 14 juillet s'il vous plaît, c'est-à-dire le jour où votre mari est retrouvé mort?
Ben, j'ai déjeuné avec lui. On s'est quitté vers 15h, je suis allé chez une amie, et puis après on l'a retrouvé mort à la maison en fin d'après-midi.
Et le monsieur, alors?
Vous ne vous appelez pas Jean-Bernard Vitkorska, n'est-ce pas?
Non.
Je m'appelle Jean-Stéphane Sesley.
Votre âge?
J'ai 36 ans.
Et là, les policiers passent son nom au fichier. On comprend mieux pourquoi il n'a pas décliné sa véritable identité. Il est recherché depuis 6 mois. Un jour, il n'est pas rentré à la prison où il purgeait une peine de 6 ans pour trafic de drogue.
Et comment vous retrouvez-vous, monsieur, à utiliser les papiers de monsieur Vitkorska?
Bah, je le connaissais. Je l'ai lui volé il y a 6 mois, comme j'étais en cavale.
Le casier de ce monsieur Sesley est épais comme la Bible. Recel de détention d'armes, trafic de stupéfiants, tentative de vol à main armée, proxénétisme, pas mal, hein? Il ne lui manque que le meurtre au palmarès. Depuis sa naissance, le type a passé plus de temps en prison qu'en liberté.
Qu'en est-il de votre relation avec Madame Vitkorska, monsieur Sesley?
Oh, on se connaît depuis tout petit, quoi. On a grandi ensemble. On a même eu une amourette quand on était ado.
Et plus récemment?
Bah, quand je me suis mis en cavale il y a 6 mois, j'ai repris contact avec elle. Et on est retombé amoureux fou, quoi. On est fait l'un pour l'autre, vous comprenez?
On comprend. Mais l'un pour l'autre, jusqu'à quel point?
On
On vient de recevoir les résultats de l'autopsie, réalisée à Garches. Jean-Bernard Witkorska a eu le larynx brisé, broyé. Mais ça ne correspond pas du tout à la chute d'une haltère, même lourde. On a appuyé sur la barre, on l'a étranglé avec la barre de son haltère. C'est un assassinat. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'alcool dans le sang de la victime, et pas qu'un peu. Et puis il y a aussi du rohypnol, un sédatif puissant à forte dose. Tellement forte que mélangé à l'alcool, ça a pu le plonger dans le coma. Quand on l'a étranglé, il était dans le coltard. Et donc les policiers retournent voir les deux zigotos, toujours en garde à vue, avec en main les résultats de l'autopsie. En commençant par Nadège, parce que l'autre connaît la musique de la garde à vue. Il sera forcément plus coriace. Alors que Nadège, c'est la policière Aurore Piana qui s'y colle. Et avant d'aller nous asseoir dans un coin de la salle d'interrogatoire, il faut que je vous en raconte une bien bonne. Cette histoire d'homme étranglé par son haltère, alors qu'il fait sa muscu. Eh bien, la policière, ça lui rappelle quelque chose, figurez-vous. Car elle est fan de la série Columbo. Et justement, il y a quelques semaines, elle a vu un épisode de Columbo intitulé « Exercice fatal ». Elle s'en souvient très bien, hein ? Dans cet épisode, un homme meurt écrasé par son haltère. Au début, on croit que c'est un accident. Et c'est un assassinat. Alors qui des deux, Nadège Witkorska ou Jean-Stéphane Sesley, a vu cet épisode de Columbo et s'en est inspiré ? Votre mari, madame, a été assassiné. Nous en avons la certitude. Un commentaire ?
Je vais vous dire toute la vérité sur cette affaire. C'est lui, c'est Jean-Stéphane qui a eu l'idée de supprimer mon mari. L'idée, c'est lui. Moi, je l'ai juste laissé faire.
Ça serait donc lui. Et pourquoi l'avez-vous laissé faire, madame ?
Mon couple battait de l'aile. Jean-Bernard avait plus de tendresse pour moi. Il était tout le temps pris à son travail. Il me faisait vivre en enfer.
La vie avec votre mari était difficile.
Plus que difficile. Il était devenu invivable. Il était alcoolique. Il était violent avec moi. C'était plus supportable.
Et Jean-Stéphane Sesley dans ce contexte, madame ?
Eh bien, il m'apportait justement tout ce que mon mari ne m'apportait plus.
La policière lui demande de raconter comment ça s'est passé, ce qu'elle sait de l'assassinat de son mari.
Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui s'est passé avant. Moi, j'étais pas là quand ça s'est passé.
Elle raconte que ils ont choisi le 14 juillet parce que les enfants n'étaient pas là.
On a invité Jean-Stéphane à déjeuner. Il se connaissait bien avec mon mari. Et puis, Jean-Stéphane l'a fait boire. Remarquez, c'était pas difficile. Il en redemandait. Il a glissé le somnifère dans un verre. Après, je sais pas, je suis parti chez mon ami. C'est lui qui a... Enfin, j'étais pas là, quoi.
Bon, et si on allait voir ce qu'il en dit, lui ? Hé, comme prévu, c'est un coriace.
On a tué personne ! Ni moi, ni Nadège. On n'y est pour rien.
Pourtant, Nadège, qui est interrogée en ce moment, affirme que l'auteur de ce meurtre, c'est vous. Et elle précise la préméditation, elle explique la motivation. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ?
Bah, je sais pas. Elle a eu peur. Elle a peut-être fait ça avec quelqu'un d'autre. J'en sais rien, moi. Je vois un avocat.
Tout ce qu'il consent à reconnaître, c'est qu'il a bien déjeuné chez les Witkorska le 14 juillet.
Et d'ailleurs, Jean-Bernard a été odieux pendant le repas. Je suis parti avant le dessert.
Vous dites qu'elle est restée seule avec lui.
Bah oui. Quand je suis parti, elle est restée seule avec lui.
«
On se retrouve donc avec deux versions contradictoires. Pour elle, c'est lui, pour lui, c'est elle. Bon, on est au tout début de l'enquête, hein. Ce sera à l'instruction de les départager et de dire qui a vu l'épisode de Columbo et l'a reproduit. En attendant, à la fin de la garde à vue, ils sont mis en examen tous les deux pour assassinat et écroués. Une juge d'instruction du tribunal de Pontoise est alors désignée. Et quand elle ouvre le dossier, elle s'étonne du manque de preuves matérielles. C'est bien joli cette histoire de Columbo, mais il faut plus que ça. Et donc elle demande entre autres qu'on réentende la jeune femme chez qui les deux tourtereaux ont été arrêtés. Vous vous souvenez? Elisabeth Tourteau. Est-ce qu'on ne l'a pas relâchée un peu trop vite, celle-là? Hein? Et revoilà donc Elisabeth Tourteau, la copine chez qui le duo a été arrêté, face aux policiers. Comment connaissez-vous Monsieur Cézelet, mademoiselle?
Ben, je l'héberge, depuis qu'il est en cavale.
Gratuitement? Vous faites ça gratuitement?
Si, oui. Enfin, il me donne un peu de drogue.
Quelque temps plus tard, en lisant le procès-verbal, la juge se dit: est-ce que ça serait pas elle, le corbeau, l'appel anonyme qui les a dénoncés? C'était une voix de jeune femme. Elisabeth Tourteau a 30 ans. Et donc elle la convoque à nouveau dans son cabinet, et elle fait bien, parce que c'est elle. C'est bien elle qui a passé le coup de fil anonyme. Et puis surtout, elle a recueilli les confidences de Cézelet.
C'était le lendemain, le 15 juillet. Il m'a dit « J'ai tué Jean-Bernard ». Il m'a dit « Ça a été long ». Il m'a même dit « Les salauds mettent toujours du temps à mourir ».
Elle raconte aussi qu'avant, bien avant le meurtre, un jour Cézelet était chez elle, et elle a reçu un appel d'un de ses amis qui est cardiologue à Marseille.
Et là, Jean-Stéphane, il m'a fait signe qu'il voulait lui parler, alors je lui ai passé. Il s'est fait passer pour un scénariste de cinéma. Et il lui a demandé quel était le bon moyen d'éliminer quelqu'un.
Et vous avez entendu ce que votre ami cardiologue a répondu?
Oui. Oui, il a parlé d'une piqûre de chlorure de potassium, je crois. Il lui a dit que ça provoquait un arrêt cardiaque immédiat et que c'était indétectable dans les urines. Mais que ça laissait évidemment une trace de piqûre, quoi. Et Jean-Stéphane, pendant la conversation, il a noté tout ça sur un bout de papier.
Un bout de papier? Eh ben voilà un élément à charge. Il faut le retrouver, ce bout de papier. Et la juge n'a pas à le chercher bien loin. Il était dans la sacoche de Cézelet qui a été saisie par les policiers. Et donc, ils le sortent, ils le regardent en détail. Dessus sont écrites et les questions et les réponses. Le temps qu'il faut pour mourir, les traces que ça laisse, les conclusions éventuelles en cas d'autopsie. C'est la preuve que Jean-Stéphane Cézelet a prémédité le crime. Alors la juge en parle bien sûr à Cézelet, qui est toujours aussi retors.
Mais je vous dis que je travaille à l'écriture d'un roman. Un roman policier. C'est pour ça que j'ai posé ces questions à ce docteur. Et que j'ai écrit les réponses sur ce papier.
Mouais, mouais, mouais. Les mois passent, les auditions se succèdent, et Jean-Stéphane Cézelet finit par reconnaître qu'il a bien élaboré cet assassinat avec la complicité de Nadège Witkorska, que c'est dans ce but qu'il a interrogé le cardiologue.
Mais du coup, j'ai renoncé. C'était trop risqué, beaucoup trop risqué. Mais oui, oui, je vous confirme que ça m'a traversé l'esprit.
Un pas en avant, un pas en arrière. Mais c'est long, une instruction. Cézelet revient plusieurs fois dans le bureau du juge.
Dites-moi, monsieur Cézelet, vous aimez Columbo, l'inspecteur Columbo?
Ah, j'adore, madame le juge.
Eh bien, nous pensons que vous avez été inspiré d'un épisode de Columbo. Exercice fatal.
Et là, il reconnaît qu'il a vu l'épisode en question. Qu'il s'est dit, c'est le crime parfait. Et qu'il s'en est inspiré pour préparer le meurtre de Jean-Bernard Witkorska. Mais il n'est pas allé au bout. Hein. C'est ce qu'il dit. «
Et maintenant, il faut éclaircir un petit mystère, la cerise sur le gâteau de cette histoire incroyable. Depuis le début, la juge et les policiers se demandent pourquoi et comment il y avait un banc de musculation chez les Victorska. Car tout le monde le dit, Jean-Bernard ne faisait pas de musculation, ça n'était pas du tout son genre de soulever de la fonte à la maison, du tout. Eh bien, figurez-vous que Sesley a convaincu Nadège de lui offrir un banc de musculation pour la fête des pères. Si, si, et détail sordide, ce sont leurs propres fils, 3 ans et 7 ans, qui, le jour de la fête des pères, lui ont offert la bouche en cœur, l'arme du crime. C'est machiavélique. Et quand Jean-Bernard reçoit le cadeau, il aurait dit « Oh ben ça tombe bien. Le médecin m'a recommandé de faire de l'exercice. » À ce stade, vous noterez que Jean-Stéphane Sesley a reconnu qu'il avait préparé le meurtre, pensé le meurtre, que Colombo est son inspirateur. Mais il n'a pas dit qu'il avait commis le meurtre. Et d'ailleurs, lors d'un dernier rendez-vous chez la juge, je suis resté 2 heures dans l'appartement pour savoir ce que j'allais faire. Et puis au bout de 2 heures, je suis parti, j'ai laissé tomber. Mais depuis sa prison, il commet des imprudences. Il écrit à Nadège et les lettres sont interceptées. « J'ai accompli les actes parce que je t'ai cédé pour te faire plaisir. On n'avait pas d'autre solution si on voulait vivre tranquille. Tu as fini par me piéger. J'ai craqué devant ta détresse. Ce qui revient à signer des aveux. » L'instruction est terminée. Elle a duré 3 ans. La juge a maintenant une idée précise de ce qui s'est passé le 14 juillet 1995. Et voilà donc le scénario retenu par la juge. Le 14 juillet, Jean-Stéphane Sesley entraîne son camarade Victorska dans une tournée des bars.
Hey, de Ricard, s'il vous plaît.
Évidemment, c'est Sesley qui rince. Aux alentours de midi, les deux compères sont de retour à l'appartement des Victorska. Jean-Bernard est saoul comme un cochon. Au milieu du déjeuner, Sesley glisse du rohypnol dans un verre de rosé.
À la tienne, Jean-Bernard!
Quelques minutes plus tard, Jean-Bernard Victorska s'endort dans son assiette. Sesley le transporte jusqu'à la chambre, il l'allonge sur le lit, il le change pour le mettre en tenue de sport. Et pour parfaire son alibi, Nadège quitte l'appartement vers 5h30. Et vous savez qui est la copine chez qui elle va passer la fin d'après-midi? La mère de Jean-Stéphane Sesley. Pendant ce temps, Sesley est seul dans l'appartement. Il étrangle Victorska avec la barre d'haltère. Et il téléphone à Nadège.
Allô? Nadège? C'est bon, c'est fait.
On a la trace de l'appel. Et puis, aux alentours de 19h30, Nadège commence à faire son cinéma et elle s'inquiète.
« Mais je comprends pas. On a déjeuné ensemble. Il est rentré se reposer un peu à la maison. Il devrait être là. »
Elle passe 5 coups de fil chez elle et elle finit par convaincre son amie de l'accompagner sur place. Une fois dans l'appartement, elle s'arrange pour que ce soit elle qui découvre le corps. Et après, elle joue la veuve éplorée. Et quand le médecin signe le constat de décès accidentel, ils sont convaincus tous les deux d'avoir commis le crime parfait. Voilà le scénario retenu par l'instruction. Reste le mobile. Nadège Witkorska dit que son mari était alcoolique et violent. Bah, ça n'est confirmé par personne, ni par les proches, ni par les enfants. Non, le vrai mobile, c'est l'argent, bien sûr, comme toujours. Nadège touche une assurance vie de 535 582 francs, 81 000 euros. Nadège et Jean-Stéphane voulaient refaire leur vie. Il semble qu'ils avaient en projet d'ouvrir un bar au Mexique. Ça ne dit toujours pas qui est le cerveau du plan. Alors que disent les experts psychiatres? Eh bien, ils disent que Sesley est un sociopathe, froid, calculateur, manipulateur. Alors que elle, Nadège, est une femme soumise, dépressive, fragile.
Elle a le profil d'une suiveuse. Elle s'est fait entraîner. Et donc, à la fin de l'instruction, Nadège Victorska est renvoyée devant la cour d'assises pour complicité d'assassinat et Jean-Stéphane Cézelet pour assassinat. Le procès a lieu en octobre 2000 devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Et dès l'ouverture, la présidente annonce qu'un témoin clé ne sera pas là. Elisabeth Tourteau. Elle s'est suicidée quelques jours plus tôt. Parce que depuis qu'elle avait dénoncé le duo, elle vivait dans la peur. Elle recevait des menaces par téléphone, par courrier. Elle s'est fait agresser dans la rue. On l'a rouée de coups. Et on peut imaginer que c'est Cézelet qui a commandité tout ça depuis sa cellule de prison. Et à la fin, les jurés retiennent le scénario de l'instruction. Jean-Stéphane Cézelet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté et Nadège Victorska prend 13 ans pour complicité. Lui fait appel et il prend la même peine 3 ans plus tard. Nadège sort de prison en 2007. Vous imaginez bien que ses fils lui en veulent. C'est pas simple. Quelques semaines plus tard, elle se suicide chez l'un de ses fils en avalant des médicaments. Et Cézelet se suicide lui aussi en prison en 2010. 4 morts donc dans cette affaire, alors qu'il eût été si simple de divorcer.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.